Et on commence avec un atelier qui va être piloté par Alexandre Geffen. Alors Alexandre Geffen, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes historien des idées de la littérature, porteur du projet ANR de 2021-2024 qui s'appelle Culture IA, sur l'édition électronique justement, la littérature et les réseaux. Vous êtes un des pionniers de la recherche dans les humanités numériques en France. Vous êtes critique littéraire. Vous êtes aussi un des trois organisateurs de l'exposition qu'on peut toujours voir jusqu'au 21 septembre, je crois, au musée du Jeu de Paume, dont j'ai vu encore de la publicité dans le métro en arrivant ici, « Le monde selon l'IA », qui est plus une approche d'ailleurs sur le travail des artistes aussi, comment ils refaçonnent notre vision du monde à travers l'IA. Et puis vous éditez de nombreux essais, scientifiques bien sûr, dans des éditions plus grand public comme l'Observatoire, Corti ou Flammarion. Et avant-hier, vous étiez sur France Culture pour parler justement création littéraire et IA. Et puis, pour vous seconder dans votre atelier, Bénédicte Necaille. Donc vous êtes metteuse en scène et directrice de compagnie, vous êtes comédienne, vous avez dirigé des très grands théâtres au niveau technique, notamment à la Théâtre des Bouffes du Nord, le Théâtre des Champs-Élysées et le Théâtre du Vieux Colombier, qui appartient à la Comédie Française. Vous consacrez désormais à votre compagnie, vous écrivez aussi. Vous avez publié dernièrement un ouvrage, Le Dernier Parfum, monologue pour une actrice, que vous signerez d'ailleurs sur le stand de l'éditeur, un très bon éditeur, je crois, Rive-Neuve en l'occurrence. Et il n'y a pas de surprise. Et vous êtes très intéressé, disiez-vous, par l'IA en tant qu'aussi dans le domaine du théâtre. Et donc on vous mettra en connexion avec le Collège Théâtre du programme ICAR, et vous serez amené à lire des textes et donc vous à réagir entre les textes rédigés par l'IA ou rédigés par des êtres humains. En l'occurrence, nous allons travailler, Alexandre Geffen a fait jouer ses contacts auprès d'Eliette Abécassis pour avoir quelques textes autour de son livre à paraître, et puis Alexandra Semer, qui intervient dans la table ronde, nous a aussi fourni quelques textes construits par l'IA. Voilà. Ben écoutez, Alexandre, je vous laisse piloter cet atelier pendant une petite heure et demie, avant d'avoir ensuite une pause café d'une demi-heure, ensuite une table ronde, et à 6h30, le grand public sera dans la salle. Vous pourrez retrouver un petit peu l'exposition, enfin le salon lui-même. Et à 19h, nous avons l'ouverture officielle avec les prises de parole, conférences, enfin les différents, la présidente de l'EDIF, la directrice de l'ICAR, les responsables de la région et de Paris Centre, et également Gilles Marchand, qui est cet écrivain ayant eu prix des libraires 2023, qui est notre parrain pour cette première édition. Voilà, Alexandre Geffen, c'est à vous.
Merci. J'ai rien préparé de manière très très formelle. Je vous propose de parler un petit peu de l'IA et de sortir un peu du bavardage médiatique. Moi, je suis scientifique. Hein, j'ai connu l'IA dans les laboratoires de Stanford, où c'était d'abord des algorithmes et des trucs qui marchaient vraiment de manière tout à fait artisanale. Donc, je vais essayer un peu de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un grand modèle de langage, comment ça marche, qu'est-ce que ça sait faire, qu'est-ce que ça ne sait pas faire. On écoutera ensuite un certain nombre de textes, on fera le test de savoir si vous êtes capable de reconnaître le texte produit par l'IA, des textes qui ne sont pas produits par l'IA, et on parlera de manière un petit peu plus approfondie des potentialités de l'IA pour la littérature, mais aussi pour d'autres aspects de l'édition qui vont évidemment de la traduction jusqu'à l'expertise des manuscrits, au marketing, etc. Alors, l'IA qu'on connaît aujourd'hui, elle est issue d'un très long processus scientifique qui date des années 50, qui est l'époque où on invente le mot IA. Pendant plusieurs décennies, on a des systèmes de règles qui permettent encore aujourd'hui de faire des choses assez simples, type une boîte de vitesse, ou des choses plus compliquées comme piloter un avion. Et à partir des années 2000, on commence à avoir d'autres types de technologies qu'on appelle des réseaux de neurones qui sont capables d'organiser de très grandes quantités de données. En gros, on va donner à des sortes de cellules artificielles dans le cerveau des ordinateurs, des masses et des masses d'images, des masses et d'images de texte, et l'IA va être capable d'organiser les relations entre ces mots et entre ces images, et va donc être capable, par exemple, de traduire en rapprochant hein, les mots et les contextes d'une langue à une autre, ou va être capable de produire, d'identifier des images, de classer des images, de faire la reconnaissance de visages. C'est donc la conjonction de méthodes qui vont un petit peu copier la capacité d'organisation du cerveau et de big data, de conversion des sociétés au numérique qui alimentent avec Google Books, etc., les IA de données. Ensuite, à partir des années, disons, 2010, on commence à avoir des techniques qui relèvent de ce qu'on appelle l'IA générative, qui sont des méthodes qui ne sont pas seulement capables de classer, ou de transposer, mais de produire en fait des contenus. Il y a quelqu'un qui produit un article absolument déterminant sur la question des transformers, hein, c'est le T de GPT. Hein. Ce sont des méthodes qui permettent finalement de prédire de manière très efficace un mot après un autre. Donc qu'est-ce qui se passe? On donne des centaines de milliards de textes à une IA. Elle va fabriquer dans ce qu'on appelle son espace latent, dans son espace intérieur, des règles qui vont organiser les mots les uns par rapport aux autres. C'est très simple à comprendre. Hein. Si vous lui dites « il était une fois un petit chaperon », elle va prédire de manière logique que le mot suivant sera probablement le mot rouge. Bon. Tout ça, c'est de la prédiction qu'on appelle stochastique. Pour se moquer des IA, on parle de perroquet stochastique. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça, parce que les règles sur des très, très grandes quantités de mots ne sont pas que des règles simples. Mais les IA sont capables de généraliser, de comprendre, finalement, à leur manière, le monde à travers la relation que les mots ont les uns par rapport aux autres. Donc c'est à la fois beaucoup et très peu. C'est très peu parce qu'une IA ne sait rien de l'expérience d'un être humain. Elle n'a pas de liens causaux, hein, comme dit l'un des inventeurs de l'IA, le français Yann LeCun, le patron de Meta chez Facebook. Votre chat en sait beaucoup plus sur la gravité que l'IA. Il n'en demeure pas moins que si vous demandez à une IA de résumer la théorie de Newton et celle de Einstein pour une classe de quatrième en quelques lignes et que vous lui demandez de traduire ça en thaïlandais, elle vous le fera très bien, ce que votre chat ne sait pas faire, même si le chat, lui, a une expérience hein, qu'on appelle hanté, enfin, qu'on appelle reliée au monde hein, de la physique. C'est donc à la fois une très grande force conceptuelle, une capacité à généraliser, à prédire des séquences linguistiques, à transposer des styles, à imiter les langues, à traduire, à résumer, à synthétiser, qui est déployé, et en même temps un outil qui ne vous assure jamais d'une vérité parfaite, hein, puisqu'on est dans la prédiction statistique et qu'on a ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire des choses qui sont vraisemblables en termes de séquences de mots, mais qui ne sont pas vérifiées par la réalité. Par ailleurs, ces IA, ces machines génératives qui vous prédisent des images et des textes, elles ne sont jamais données en tant que telles au public. Elles sont supervisées par des humains et alignées à un certain nombre de règles éthiques afin qu'elles ne soient pas capables de vous aider à fabriquer une bombe chimique ou qu'elles ne vous conduisent pas, en général en tout cas, au suicide lorsque vous interrogez. C'est une phase très importante parce que c'est d'elle dont découle tout un paramétrage de l'IA, ce qu'elle voit, ce qu'elle ne voit pas, sa sensibilité au monde, sa dimension extrêmement flatteuse, progressiste pour ChatGPT, en même temps son incapacité à faire des choses qui pourtant peuvent intéresser la littérature, parler de violence, parler de sexe, parler de mauvais sentiments, et mettre en scène des situations qui ne sont pas des situations conventionnelles et positives. Donc cette processus d'alignement hein, fait que ces grandes machines à prédire et à réorganiser du savoir ont d'évidence des limites pour un certain nombre d'usages, notamment les usages littéraires. Alors, on en vient donc à la situation où, il y a 3 ans, on met à la portée de tous ces outils, d'abord ChatGPT, puis ensuite suivi par Gemini, puis par Grok, etc. Ce sont de gros modèles qui tournent sur des serveurs américains, très fortement consommateurs de données. Ils sont en train d'émerger des choses beaucoup plus légères, parfois open source, qui peuvent tourner sur vos propres ordinateurs, voire vos téléphones portables, mais qui n'ont pas effectivement la puissance d'un ChatGPT-5 qui est entraîné sur des centaines et des centaines de milliards d'exemples. Quoi qu'il en soit, ces outils deviennent à la portée de chacun et se développe une quantité phénoménale d'usages qui vont d'usages, par exemple, pour faire des lettres de réclamation, c'est le premier usage de ces IA aux États-Unis, jusqu'à des déclarations d'amour sociaux, en passant par des lettres de motivation, des argumentaires commerciaux, le codage de sites web, la traduction, etc., etc. Pour les écrivains, la tentation est immense d'essayer, d'expérimenter, de tester des choses. Les écrivains ne sont pas désarmés par rapport à ce monde des machines à écrire. Hein. Je vous rappelle que dès que l'ordinateur a émergé, on en a imaginé des usages littéraires. Alan Turing a une première collaboration pour générer des lettres d'amour dans les années 50. À peine l'Oulipo était né qu'une branche de l'Oulipo se mettait à réfléchir avec notamment Italo Calvino à l'usage des ordinateurs pour créer de la littérature. Et si vous allez dans la salle 6 du Jeu de Paume, l'exposition que vous avez la gentillesse d'évoquer, vous verrez tout un historique des générateurs de textes. Ce sont des générateurs de textes qui, comme ceux par exemple de Jean-Pierre Balpe, dont certains documents sont montrés grâce à Alexandra Zaimer ici présente, n'ont pas la puissance des IA génératives. Ce sont des systèmes de règles capables de vous faire des formes imposées à la manière des Oedipiens, mais ce sont néanmoins des générateurs de textes qui précèdent largement ChatGPT. Quoi qu'il en soit, lorsque les IA génératives émergent, les écrivains les expérimentent. Certains profitent du premier moment où les IA sont très très imprécises, et vous verrez dans cette même salle du Jeu de Paume un écrivain canadien qui s'appelle Dave Johnston, qui fait écrire des poèmes assez féconds, pléthoriques et délirants aux IA, et ensuite qui va les sculpter pour leur donner une forme finale. Mais très vite, des IA beaucoup plus normées, prévisibles, un petit peu standardisées vont émerger. Et là, les écrivains se demandent qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on s'en sert pour vaincre le syndrome de la page blanche? Est-ce qu'on s'en sert pour se documenter? Et après tout, l'écrivain, une part de de l'écriture littéraire, c'est une part de documentation, notamment dans le monde réaliste. Vous vous souvenez que Houellebecq avait pillé Wikipédia et qu'on l'avait même accusé d'utiliser sans payer de droit Wikipédia. Est-ce qu'on va l'utiliser pour créer des choses qui vont être idiomatiques? Je ne sais pas, vous voulez faire un roman dans lequel il y a une scène qui se passe lors d'un salon littéraire professionnel au blanc manteau, et vous ne connaissez pas tellement le contexte des éditeurs. Et donc, vous voulez imaginer, je ne sais pas, quelque chose qui se passerait ici. Et donc, vous demandez à ChatGPT de combiner dans son espace mental ce qu'il sait de l'édition indépendante et ce qu'il sait, je ne sais pas, de l'arrivée d'un lion féroce ou je ne sais qu'est-ce qui pourrait arriver encore. Bien sûr, les témoignages divergent. Ils vont d'écrivains qui vont reconnaître l'usage d'IA, comme la récipiendaire du prix Akutagawa au Japon, lequel du prix Goncourt, Ryokudan, qui a avoué avoir utilisé abondamment ChatGPT pour 5% du bouquin qui a eu le prix, jusqu'à des écrivains qui nient férocement toute part d'IA dans la création et exige d'appliquer des étiquettes écrites sans IA à leurs livres, en passant par des usages sans doute discrets, secrets, par des écrivains qui vont s'en servir sans référer, sans afficher hein, leurs usages, un peu comme dans les entreprises. On sait très bien qu'il y a des masses de gens qui, de manière discrète, s'en servent. Nous, les premiers universitaires, je vous décrirai mes pratiques de recherche dans une autre conférence, si vous avez le temps. Mais j'en fais un usage fort abondant, mais aussi très réfléchi. Hein. Alors, dans l'état actuel, on a des outils qui ont des capacités de combinaison tout à fait intéressantes, hein, vous voyez, pour combiner des espaces mentaux, des espaces de référence, des capacités de documentation tout à fait intéressantes, avec un gain de texte, des capacités d'inventivité qui sont extrêmement discutées, hein, puisque, je vous le disais, le paramétrage des IA, c'était de produire des mots probables, donc de produire un langage prévisible, et par ailleurs d'être très entravé par une censure algorithmique extrêmement forte. Donc du point de vue de la réalisation d'une œuvre littéraire originale, on a cette double frontière d'être dans le domaine du prévisible, de ne pas se distinguer, et d'être extrêmement cadré par des règles normative imposée par les grands de la Silicon Valley, et la littérature, c'est plutôt du côté de la subversion à la fois du langage et des normes sociales qu'elle se situe. Donc vous voyez le gap. On peut imaginer des usages plus intéressants, mais qui vont nécessiter toute une ingénierie, hein, toute une ingénierie du prompt. On va avoir la possibilité d'alimenter une IA avec des modèles de sa propre écriture. Hein, c'est ce qu'on va voir dans l'exemple qu'a eu la gentillesse de nous donner Eliette Abécassis, ou de donner des exemples d'auteurs célèbres. C'est l'exemple qu'a préparé Alexandra Seimer. Et là, les IA sont capables de transfert, d'imitation, de transposition, tout à fait efficace. On peut imaginer qu'une part non négligeable de la création puisse devenir une création secondaire, une métacréation dans laquelle l'écrivain va devenir un prompteur. Mais simplement, il faut bien comprendre qu'il ne fera pas ça en deux lignes, il n'écrira pas le prix Goncourt en deux lignes, avec un prompt banal. Hein, c'est un travail beaucoup plus élaboré qui pourrait passer par l'usage de ses propres corpus d'entraînement pour les IA, qui pourrait passer par un travail d'interaction de prompt extrêmement raffiné, élaboré, pour arriver à faire de l'IA quelque chose de créatif au service de la littérature. Mais le remplacement en tant que substitution, il n'est pas, c'est pas demain qu'il arrivera. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur la rentrée littéraire. Hein. Moi, je suis en train de lire ma chouchou absolue, Maria Pourchet, et son dernier récit d'une rupture extraordinairement corporellement incarnée. Ce n'est pas l'IA qui vous racontera ce que c'est que l'expérience d'une femme qui quitte son mari et s'installe dans une chambre d'hôtel et voit sa fille à intervalles très limités, en évoquant l'eczéma que ça provoque sur son corps. Vous pouvez regarder aussi, vous verrez beaucoup, beaucoup de romans de filiation, hein, qui sont aussi hantés dans l'expérience humaine, dans l'expérience d'une vie incarnée. L'IA, elle n'a pas d'intention, elle n'a pas de corps, mais elle n'a pas non plus d'histoire. Hein. Clairement, ces romans de filiation, c'est pas une IA qui va les produire. Donc, on est encore très, très loin d'une substitution possible. En revanche, qu'est-ce qui interdit de penser que tel ou tel roman de filiation pour raconter tel ou tel petit épisode de passage d'un ancêtre dans un lieu qui est mal connu, ce soit utiliser l'IA pour se documenter ou pour imiter le langage des années 50, par exemple, à partir d'exemples, c'est pas inenvisageable non plus. Donc vous voyez, je crois que pour le moment, on est dans ce paramétrage hein, qui est à la fois intéressant mais limité, et je pense qu'il faut donc, de ce point de vue-là, détruire deux fantasmes. D'une part, la peur du remplacement de l'imagination, de l'incarnation, de l'écriture par l'IA. Hein. Clairement, on attend d'un écrivain un rapport original, incarné, risqué, personnel, singulier au langage. Et de ce point de vue-là, l'IA n'est pas capable de s'y substituer. Mais à l'inverse, il n'y a aucune raison de ne pas penser que l'IA ne participe pas de tous ces outils que les créateurs ont toujours mis à leur service, hein, depuis le burin du sculpteur jusqu'à la machine poétique des Oedipiens. Hein. Donc je crois qu'il faut se situer dans un rapport intelligent, subtil, à ces outils pour les comprendre plutôt que d'afficher une peur ou une autre. Alors, je vous propose qu'on entende hein, 4 textes donc, rédigés par l'écrivaine Edietta Bekassis, qui nous avait présenté lors d'une journée qui avait été organisée à l'ENS l'année dernière. Elle a eu la gentillesse de me permettre de reprendre ces textes-là. On lui a demandé, vous savez, il y a cette collection où on demande à un écrivain de revenir dans un lieu d'enfance, et on lui a demandé de revenir dans sa turne à l'ENS, et donc de raconter, hein, de passer une nuit finalement dans la turne où elle avait vécu quand elle avait 20 ans, toute jeune normalienne. Et elle a produit 4 textes. Dans ces 4 textes, il y en a 3 qui sont imités d'Edietta Bekassis, et il y en a un qui est d'Edietta Bekassis. Je vous propose de les entendre et on va voir si vous êtes capable de savoir lequel est humain et lequel est juste une transposition de l'écriture humaine.
Retour à Ulm, version 1. Je traverse l'espace comme un fantôme qui se souvient. Le cloître déroule ses arcades, le bassin où Ernest scintille, miroir liquide où nagent les silences de générations d'âmes errantes. Ces poissons, témoins immobiles, conservent dans leurs écailles la géographie de mes rêves perdus. Maturne, mot sacré, chuchotement initiatique. Je pousse la porte, membrane entre 2 temporalités, et le silence m'enveloppe. Un lit, un placard, un lavabo, architecture monastique d'une vie suspendue, cellule de méditation où ma jeunesse a appris à respirer, à se construire, à exister. Sidération. Mot trop étroit pour contenir l'océan de mes émotions. 30 ans. 30 orbites autour de ce moment originel. Je suis là, corps fragile et volonté d'acier, fixant l'arbre par la fenêtre, psalmodiant mon appartenance. Je suis chez moi, enfin chez moi. Nomade, j'ai glissé entre les intérieurs comme une ombre, accumulation de vie provisoire. Pauvres ou riches, mes demeures n'ont été que des parenthèses, des stations migratoires. Ici seulement, j'ai vraiment habité, vraiment existé. La nostalgie me guette. Je pourrais supplier l'étudiant actuel de me céder ce territoire et m'enfoncer dans le syndrome de l'ENS, maladie douce où la mémoire devient un cocon, où le passé distille ses fantasmes dans les veines du présent. Mais je sais. Cette chambre n'est plus un lieu, mais une géographie sentimentale. Fragment de mémoire, territoire intime que je ne puis désormais habiter que dans l'alchimie fragile du souvenir. Retour à Ulm, version 2. Je reviens. Je reviens là où tout a commencé. Je reviens dans ce lieu qui m'a faite, qui m'a forgée, qui m'a inventée. Le couloir saumon me reconnaît. Les murs me reconnaissent. L'escalier se souvient de mes pas d'alors, de mes pas d'aujourd'hui. Je marche, je glisse, je survis. Maturne, ma cellule, mon sanctuaire. Je pousse la porte comme on ouvre un livre. Un lit, toujours le même lit. Un placard, un lavabo. Le même lavabo qui a recueilli mes larmes, mes doutes, mes espoirs. Je me souviens. Je me souviens de cette fenêtre. Je me souviens de l'arbre. Je me souviens de moi. jeune fille tremblante et déterminée, répétant « Je suis chez moi, enfin chez moi ». J'ai déménagé, j'ai traversé des vies, j'ai glissé entre des appartements, j'ai été pauvre, j'ai été riche. Mais nulle part je n'ai été vraiment là, nulle part je n'ai vraiment existé, sauf ici. La nostalgie me guette, la nostalgie me transperce. Je pourrais rester, je pourrais supplier, je pourrais m'effacer dans ce syndrome de l'ENS, maladie douce où les souvenirs deviennent plus réels que le présent. Mais je sais que cette chambre n'est plus un lieu. Je sais qu'elle est devenue un poème. Je sais qu'elle n'est plus que mémoire, qu'alphabet de mes années perdues, territoire intime d'un temps révolu. Retour à Ulm, version 3. Je n'ai presque pas cherché mon chemin. Je monte dans le grand escalier qui mène au couloir couleur saumon que j'ai traversé. Ce couloir peint en rose pâle, dont les chambres donnent sur le cloître et le bassin aux gros poissons rouges qui tournent en rond. Puis tout au bout à gauche, j'entre dans ma turne. Oui, c'est ainsi qu'on appelait les chambres à Ulm. Je suis complètement sidérée d'être là 30 ans après. Et tout me revient. Les premiers moments, surtout. J'y ai été tellement heureuse d'avoir réussi le concours. Après ces 3 années de travail infernal dans tous les domaines, ces années si dures, éprouvantes, humiliantes souvent, c'est monacal, simple. Juste un lit, un placard, un lavabo. Même pas de douche ni de toilette. Je reconnais l'arbre que je voyais de la fenêtre. Pendant un an entier, j'étais sur mon lit et je me disais « C'est génial, je suis chez moi, je suis enfin chez moi ». J'ai beaucoup déménagé depuis. J'ai accumulé des affaires que je transporte de maison en maison. J'ai vécu dans des appartements de pauvres, des maisons de riches. Je n'ai moi-même jamais rien possédé. Je suis toujours là. Je pourrais m'abîmer ici dans un torrent de nostalgie. Je pourrais rester dans la chambre et ne jamais la quitter. Je pourrais dire à l'étudiant qui l'a laissée que j'y reste. Je pourrais m'y perdre et développer un syndrome, comme le syndrome de Florence ou le syndrome de Jérusalem, ce serait le syndrome de l'ENS. Je pourrais rester là car j'y ai laissé une partie de mon moi, une partie de moi qui est chez soi et qui n'a plus jamais été chez soi depuis son départ de cette turne. Retour à Ulm, version 4. Je suis de retour à Normale Sup, la nuit tombée, le silence enveloppant le bâtiment comme un vieux manteau. Je monte le grand escalier, ce même escalier où ont résonné mes pas. Mes souvenirs affluent alors que je traverse le couloir saumon où chaque porte renferme des éclats de vie, des rêves. En entrant dans ma chambre, ou plutôt ma turne, un frisson me parcourt. C'est un lieu chargé d'histoire, un sanctuaire de mes luttes et de mes joies. Je regarde par la fenêtre vers cet arbre que j'ai tant contemplé. Je me souviens de ces instants où, allongée sur mon lit, j'admirais ces feuilles danser au gré du vent, me répétant que j'étais enfin chez moi. J'avais travaillé si dur pour être ici, pour vivre cette joie. Après tant de mois de stress et de doutes, je suis entrée dans ce monde qui était le mien, même si je ne le savais pas encore. Soudain, il m'apparaît que cette chambre est bien plus qu'un simple espace physique. C'est un fragment de moi, un lieu où j'ai laissé des morceaux de mon âme. Je pourrais rester ici éternellement, refuser de quitter cet endroit qui m'a tant donné. Je pourrais dire à l'étudiant qui l'occupe actuellement que je ne partirai pas. Que je suis chez moi, ici, au cœur de cette institution qui m'a façonnée. Un torrent de nostalgie menace de me submerger. Mais, au lieu de me laisser emporter, je me rappelle que cette expérience m'a enrichie, qu'elle a forgé mon identité. J'ai déménagé errer d'appartement en appartement, accumulant des biens sans jamais vraiment manquer. J'ai vécu dans des lieux modestes et dans des demeures plus raffinées, mais rien n'a jamais égalé la simplicité de cette chambre. Je suis toujours là, ancrée dans cette mémoire, avec cette envie folle de plonger dans le passé, d'y retrouver mes amis, mes rêves, mes espoirs. Je comprends alors que, même si je ne suis plus physiquement ici, une partie de moi restera toujours dans ces murs, dans ce couloir, près du bassin aux Ernest. C'est cela, la magie de l'ENS. Un lieu de passage, un foyer de l'esprit, un creuset d'amitié inoubliable. Je suis assise sur le lit défait de ma chambre à l'ENS, rue d'Ulm, un lieu que le temps a effacé de ma mémoire pendant près de 30 ans. Les murs, chargés de souvenirs, semblent murmurer des histoires d'enthousiasme et de doute, de nuits blanches passées à déchiffrer des textes qui ont façonné ma pensée. Je repense à ce moment décisif où j'ai su, enfin, que le concours était à moi. L'adrénaline qui avait parcouru mon corps comme une onde de choc, la jubilation d'un rêve réalisé. Je venais de Strasbourg, bercée par les échos des ruelles anciennes et des discussions passionnées dans les cafés. La cagne à Henri IV, ces années d'efforts acharnés, de lectures compulsives et de rencontres inoubliables. Je me souviens de Catherine, avec son sourire contagieux et son esprit aiguisé, toujours prête à débattre jusqu'à l'aube. Emmanuel, dont les analyses pénétrantes illuminaient les discussions les plus obscures. Et David, ce rêveur qui savait transformer chaque banalité en poésie. Ces murs, témoins silencieux de nos ambitions, de nos rires et de nos larmes, sont imprégnés de l'effervescence de notre jeunesse. Ici, la culture et l'intelligence flottaient dans l'air comme une promesse, un appel à l'éveil. Chaque livre, chaque conférence, chaque amitié tissée dans l'effervescence de ces années passées a laissé une empreinte indélébile sur mon âme. Je me retrouve, après tant d'années, à contempler le chemin parcouru. Le poids des souvenirs me submerge, mais c'est une mélancolie douce, teintée de gratitude. Ces instants, ces visages, ces dialogues ont façonné la femme que je suis aujourd'hui. Dans cette chambre, je ressens à nouveau l'intensité de cette quête de sens, cette passion pour le savoir qui m'a animée et qui continue de me porter. Les échos du passé résonnent encore, me rappelant que, même après tant d'années, la magie de ces moments perdure.
Merci beaucoup pour cette lecture. Alors, je dois préciser quand même que le prompt d'Eliette était relativement élaboré, que les murs saumon étaient mentionnés, que le fait qu'elle vienne de Strasbourg était prévu. Donc, il y a déjà quelques lignes de prompt, quelques exemples de son style. Il n'en demeure pas moins que seul un de ces quatre textes a été écrit de la première à dernière lire par un être humain. Je propose de voter. Qui pense que c'est le premier texte qui a été écrit par un être humain ? Deuxième texte, qui penche pour le deuxième texte ? Troisième texte ? Quatrième texte ? Bon, alors vous avez quand même plutôt eu raison, j'ai vu plus de voix, c'est le troisième texte qui a été écrit par Eliette Abécassis. Je pense que la mention de la difficulté à trouver des toilettes dans un texte littéraire ne peut être que le fait d'un être humain pour le moment, par exemple. Je pense que le texte est quand même plus léger en poncif sur ce que c'est que l'expérience de ce point de vue-là, l'écrivain coupe et l'écrivain ne s'autorise pas un certain nombre de métaphores pas toujours réussies. Il n'en demeure pas moins qu'il aurait sans doute suffi de dire à l'IA « tu seras économe en métaphores et tu adopteras plutôt un style ironique » qu'elle aurait coupé sans doute une partie de ces envolées pseudo-lyriques. Donc vous voyez quand même qu'est-ce qu'on fait avec l'IA quand on la met de bonne main. On arrive à faire des choses qui sont tout à fait crédibles, intéressantes, qui pourraient passer dans plein de circonstances. La littérature, c'est pas seulement que des œuvres majeures qui ont la possibilité de concourir pour la rentrée littéraire, mais c'est aussi plein de textes de portée plus faible, de textes de circonstances, de textes qui servent à raconter à sa famille ou à autrui des éléments de sa vie. Et de ce point de vue-là, l'IA a une très grande force. Évidemment, vous en rendez compte, le danger, c'est d'être petit à petit embarqué dans une normativité, dans quelque chose qui va être, au fond, une certaine vision de ce que c'est qu'une existence, une certaine vision de ce que c'est que la jeunesse, la réussite, l'amour, etc. Toutes ces valeurs qui sont à la fois configurées par le corpus d'exemples dont dispose ChatGPT, qui n'est pas un corpus neutre, ne serait-ce que parce que c'est largement un corpus issu du web, dont 80% est en anglais. Donc vous attrapez forcément une vision de ce que c'est que la réussite et le bonheur dont l'épicentre se situe du côté de San Francisco. Par ailleurs, quand bien même une variété de formes de vie transparaîtrait, la phase de supervision humaine et d'alignement des systèmes de valeurs va organiser, va orienter les idées. D'où le danger finalement d'une fadeur algorithmique, du sentiment d'une créativité augmentée, mais qui en réalité emmènerait tous les gens vers la même direction. Des expériences assez intéressantes ont été faites. On a donné à 50 personnes une IA pour leur demander de créer un texte à partir d'une expérience. Tout le monde a eu le sentiment que on avait fait des trucs super très très vite. Et en fait, quand on a regardé les 50 textes, à partir d'expériences différentes, ils se ressemblaient un tout petit peu tous. Alors bien sûr, cette normativité des récits, il n'y a pas que l'IA. Nous sommes dans des réseaux de discours médiatiques, d'exemples, etc., qui font que notre sensibilité, elle est normée. Les exemples que nous avons pour écrire par nous-mêmes, ils sont profondément configurés par tout ce que nous avons lu. Mais la question est de savoir dans quelle mesure passer par l'IA pourrait quand même renforcer une certaine banalité ou une certaine positivité algorithmique dans laquelle nous ne nous ressemblerons pas. La capacité d'une IA à pousser quelqu'un au suicide que vous évoquiez tout à l'heure est un cas extrêmement atypique. Les IA sont surentraînées à donner une certaine vision heureuse de l'existence, à fabriquer des scénarios de romans, de nouvelles ou de séries télé, ce pourquoi elles sont très utilisées, avec le même type de schéma, le même type d'arc narratif, obstacle et résolution heureuse. Donc on est quand même dans des machines qui sont entraînées à faire du feel good. Elles sont d'ailleurs, du point de vue linguistique, tout à fait attendu. Vous n'avez pas entendu des choses qui soient. Vous n'avez pas attendu une métaphore nouvelle, vous n'avez pas attendu une comparaison singulière, un adjectif épithète original, une structure grammaticale avec une figure un tout petit peu forte dans ces textes-là. Eliette Abekasi, c'est assez économe, elle n'en a pas produit non plus, mais l'IA n'a pas été forcément capable de déployer une structure métaphorique. Alors, moi, il y a une question qui m'intéresse beaucoup, je suis en train de faire un article là-dessus, c'est sur la capacité des IA à capturer toute la granularité, toute la finesse du style humain. Et pour voir sa capacité à attraper des styles beaucoup plus rugueux, beaucoup plus complexes, on va faire une autre expérience qui va être la lecture de la manière dont une IA va transposer le style d'un écrivain qu'on ne cachera pas, hein, Louis-Ferdinand Céline, et Alexandra Seimer a demandé à une IA d'imiter le style de Ferdinand Céline. Ça vous donnera déjà une idée de ce que la capacité de transfert stylistique de l'IA et des limites de ce transfert, puisqu'on a demandé à Céline d'écrire des poèmes, ce qu'il n'a jamais fait. Hein, donc on va entendre ce que Céline aurait pu faire en termes de poèmes.
Et si on a le temps après, moi, si c'est possible, hein, j'aimerais juste avoir un petit échange avec vous sur le tout début des 4 textes. Parce qu'en tant que lectrice, forcément, à un moment, il y a le souffle qui était là, alors qu'ailleurs, il n'y était pas. Et je voudrais faire un petit test, enfin, qu'on fasse ensemble un petit test sur les tout débuts de texte. Est-ce que vous avez besoin d'un peu de Céline pour vous rafraîchir la mémoire, avant d'entendre les magnifiques poésies? Alors, un petit bout, juste parce que... Du vrai Céline, parce que, voilà, moi, je l'aime beaucoup. Nous voici enfin seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux et ce sera fini. Il est venu tant de monde dans ma chambre. Ils ont dit des choses. Ils n'ont pas dit grand-chose. Ils sont partis. Ils sont devenus vieux, misérables et lents, chacun dans un coin du monde. Les muscles sans l'esprit, c'est même pas du cheval. Et l'esprit, quand il n'y a plus les muscles, c'est comme de l'électricité sans pile. C'est juste pour vous remettre un peu son... Alors, le premier poème. Le monde, un trou. Plein de gueules tordues, pauvres types qui traînent, tous les mêmes, tous en retard. Le ciel, ce vieux putain de plafond, pisse des nuages noirs. Il y a des bruits partout, des cris, des râles. On se meurt, on gueule, on comprend rien. Et puis on attend. La mort, peut-être. Ou juste un peu d'air. C'est ça, la vie. Un grand tourbillon. On t'embarque et ça part. Le second. Les gens, des ombres, des tas de gueules, tous accrochés à leur misère, leur sale vie. Ça braille, ça crie, ça pue l'ennui. Tu les vois ? Ces pauvres cons, ils cherchent pas à comprendre, ils vivent, c'est tout. Ils se battent pour rien. Et moi, je suis là, à regarder ça. Un œil sur le monde, l'autre dans le vide. Le temps passe. Ça ronge, ça dévore. Tu crois que ça va finir ? Non, ça commence à peine. Tout est cassé, tout est foutu. Et on court, pour rien.
Quand même une collection extrêmement simplifiée, hein, du pessimisme célinien, la rugosité des parlures populaires ne s'y trouve point, la violence, de la négativité célinienne, on l'attrape pas très très bien. Et si Céline n'a pas écrit de poème, c'est pour des raisons qu'on peut justement expliquer, c'est que le poème est une poétisation qui lui est absolument orthogonale, hein, à une vision de l'existence qui est au contraire située, hein, dans un monologue populaire, en tout cas qui imite une parole du peuple. Donc c'est impossible que Céline ait écrit ça. Mais l'exemple est assez amusant dans le sens où il y a tout un lexique finalement de la négativité que ChatGPT essaye de déployer avec quand même beaucoup de difficultés. Alors vous vouliez, chère madame, revenir un petit peu sur le début des textes d'Eliette Abécassis.
Je me disais que ça pourrait être c'est une question que je me suis posée en préparant les lectures. Quand on fait de la lecture à voix haute, la question c'est comment on embarque l'imagination et ce que nous on a dans l'imaginaire face au public. Et d'ailleurs, c'était très troublant parce que, en le lisant 4 fois, à un moment, je me suis dit, mais en fait, il y a une vraie version. Mais moi, j'ai commencé à imaginer des choses. Et quand je lis les versions qui sont pas la bonne, enfin, la version d'origine, ça se trouve, je fausse le sens parce que j'ai imaginé quelque chose. Bref. Et donc, je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant comme expérience, c'est que vous vous concentriez sur les images que vous avez. On va commencer chaque première partie et on s'arrête à la chambre. Et de vérifier pour chaque extrait quel imaginaire ça vous... Est-ce que vous voyez ce qui se passe ou est-ce que vous ne le voyez pas? Ok? En tout cas, moi, j'ai trouvé le vrai texte comme ça, mais... Certainement, on peut changer l'ordre.
Si je puis me permettre, vous étiez trompé. Hein.
Non, j'avais dit, en fait. Pour moi, c'était celui-là. J'avais mis une étoile à 3.
Ah bon, parce que vous m'avez dit, c'est le 4.
Non, mais j'avais mis sur mon d'accord, bleu, j'avais
bon.
Mis une étoile à
3. Bon.
Et l'autre chose, c'est l'enthousiasme que j'ai trouvé à lire la version 3 aussi, en fait. Mais j'ai cherché, j'ai longuement hésité. Hein. Vous voulez un autre ordre? Vous voulez le même?
Non, c'était pour feinter.
Ah, pour feinter. Bon, et vous avez besoin de savoir lequel je dis? Ah non, justement, vous voulez qu'on refasse le jeu, quoi. Ok, on refait le jeu. Je lis pas tout, hein, on s'arrête quand on est dans la chambre. Je reviens. Je reviens là où tout a commencé. Je reviens dans ce lieu qui m'a faite, qui m'a forgée, qui m'a inventée. Le couloir saumon me reconnaît. Les murs me reconnaissent. L'escalier se souvient de mes pas, d'alors, de mes pas d'aujourd'hui. Je marche, je glisse, je survis. Mathurne. Je m'arrête là, on est arrivé dans la chambre. Reset, on repart. On repart en voyage. Je suis de retour à Normale Sup, la nuit tombée, le silence enveloppant le bâtiment comme un vieux manteau. Je monte le grand escalier, ce même escalier où ont résonné mes pas. Mes souvenirs affluent alors que je traverse le couloir saumon où chaque porte renferme des éclats de vie, des rêves. En entrant dans ma chambre, ou plutôt ma turne, un frisson me parcourt. Déjà, vous avez le même imaginaire. Il y a quelque chose qui s'est déclenché ou rien du tout? Le deuxième est plus visuel, sauf qu'un bâtiment qui a un manteau, moi, c'est pas souvent que j'en vois, hein, mais... Ouais. Enfin, il y a un bout d'imaginaire sur le 4. Enfin, sur le... Pardon. Sur le qu'on vient de lire. Et celui d'avant? Ouais, non, mais c'est juste pour voir. En fait, on peut se faire avoir aussi, hein, c'est intéressant de tester. Je sais pas lequel je prends. Alors, on repart en voyage. Je traverse l'espace comme un fantôme qui se souvient. Le cloître déroule ses arcades, le bassin aux Ernest scintille. Miroir liquide où nagent les silences de générations d'âmes errantes. Ces poissons, témoins immobiles, conservent dans leurs écailles la géographie de mes rêves perdus. Mathurne. On est arrivé. On repart en voyage. Je n'ai presque pas cherché mon chemin. Je monte dans le grand escalier qui mène au couloir couleur saumon que j'ai traversé. Ce couloir peint en rose pâle, dont les chambres donnent sur le cloître et le bassin aux gros poissons rouges qui tournent en rond. Puis, tout au bout à gauche, j'entre dans ma turne. Oui, c'est ainsi qu'on appelait les chambres à Ulm. Dans la grande version, là, il y avait en entrant dans ma chambre, ou plutôt ma turne. Ça l'expliquait quand même. Hein.
Oui, mais ça ne dit pas que c'est comme ça.
C'est peut-être le texte le plus modeste, en fait, parce que le premier essaye, par exemple, de donner la parole au mur. Hein, le deuxième qu'on a lu essaye de donner la parole aux poissons, enfin en tout cas à la fontaine des Ernest et aux âmes passées, tandis que l'humain, bah, il a un corps et il sait que l'expérience, d'abord, c'est de presque pas se tromper, c'est de s'étonner de ce que finalement elle ne s'est presque pas trompée, ce qu'une IA n'aurait sans doute pas imaginer concrètement. Il y a tout de suite parti dans des généralités, hein, et puis sans doute des schémas où comme ça on va imaginer que les murs ont une mémoire, que les fontaines, que les bassins aussi collectent les âmes. Donc de ce point de vue-là, je crois que ça nous dit quelque chose, hein, sur ce que peut être une littérature après l'IA, hein. Ça sera une littérature qui sera peut-être plutôt du côté Annie Ernaux du côté d'un roman conventionnel, hein, donc quelque chose qui va rappeler l'expérience la plus nue, essayer de revenir vraiment au plus proche, au phénoménologique de ce que c'est qu'une vie humaine, de ce corps qui va peut-être éviter justement tout ce poids, hein, comme ça, hérité du passé, des métaphores, etc. Peut-être un nouveau roman héritant de cette radicalité pourrait naître. En tout cas, moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une littérature qui sera après l'IA ? Ça sera une littérature qui se débarrassera sans doute, si ce n'est ses facilités, du moins de ces poussières, de toute cette histoire littéraire qui, elle, va se dire de manière algorithmique et facile. Hein. En tout cas, c'est une première hypothèse que je peux faire, et c'est vraiment une question intéressante sur laquelle je travaille aussi. Hein. Comment peut se redéfinir la parole humaine à partir du moment où on peut faire parler un humain à travers les exemples des autres humains, ce sont des questions tout à fait intéressantes. Écoutez, je vous propose, je m'étais dit qu'il fallait peut-être une demi-heure, hein, plus interactive après les prises de parole et les exemples. Je vous propose qu'on profite de la demi-heure qui nous reste pour échanger, pour des questions et des réponses. On peut faire circuler un micro, je crois.
Et aussi, pardon, je voulais dire, notez le fait, parce qu'évidemment j'ai les textes sous l'œil, donc c'est plus facile, mais théâtralement la problématique c'est toujours quand on met une parole dans de l'espace, puisque la littérature c'est sur un papier, enfin c'est entre le livre et nous, mais quand on fait du spectacle ça s'incarne dans l'air. Dans l'original, ce qui est très troublant quand on travaille grammaticalement déjà et quand on le lit, c'est qu'il y a des ruptures qui correspondent en fait à de la pensée qui est, qui est dans la littérature et qui n'est pas dans les autres exemples. Je m'explique. Ça commence par « je n'ai presque pas cherché mon chemin » et après ça dit « je monte dans le grand escalier ». Et en fait, quand on essaye de comprendre ce qui se passe, il y a une, tout d'un coup, je me dis, ah, ok, il se passe quoi ? C'est quoi ? C'est qui ? Il y a quelque chose qui ne me semble pas logique directement. Quand je commence dans « Je suis de retour à Normal Sup, la nuit tombée, le silence enveloppant le bâtiment comme un vieux manteau », ok, bon, il y a quelque chose, j'arrive pas à suivre le jeu. Dans « Je traverse l'espace comme un fantôme qui se souvient », ok. Le cloître déroule ses arcades, ok. Le bassin aux Ernest scintille, ok. Miroir liquide où nagent les silences de générations d'âmes errantes. Et là, je fais, putain, c'est quoi ça ? Je comprends pas, en fait. Je le vois pas. Et en plus, ça continue avec les poissons, qui sont des témoins immobiles. Waouh, c'est des poissons morts, qui conservent leurs écailles, la géographie. Je comprends rien, en fait. Ça me perd. Et c'est pas de la poésie. C'est de la fausse poésie. Ça m'amène pas d'image. Quand je prends l'autre version, je reviens. Je reviens là où tout a commencé. Je reviens dans ce lieu qui m'a faite, qui m'a forgée, qui m'a inventée. Ok, jusque-là, je peux y croire. Bon, en me disant, c'est un peu égotique, mais bon, ok. Mais après, donc c'était moi, voilà. Mais la suite, c'est le couloir saumon me reconnaît. Les murs me reconnaissent, l'escalier se souvient de mes pas d'alors, de mes pas d'aujourd'hui. Je marche, je glisse, je survis. Ok. Waouh, c'est super elliptique. C'est-à-dire que j'ai du mal à suivre, j'arrive pas à suivre ce personnage. Parce qu'il commence par lui, et puis après, c'est le couloir, et après, j'arrive à la turne. Enfin, en tant que lecteur et en tant que spectateur, si je joue ça, compliqué de prendre les virages pour vous amener à visualiser quelque chose, quoi. Quand je prends l'original, tout de suite, j'y vais, en fait. Je n'ai presque pas cherché mon chemin. Je monte dans le grand escalier qui mène au couloir couleur saumon que j'ai traversé. Ce couloir peint en rose pâle, dont les chambres donnent sur le cloître et le bassin aux gros poissons rouges qui tournent en rond. Ok, je vois tout, quoi. Et je respire avec elle, parce qu'elle a monté l'escalier. Ces saumons, bah oui, parce que hop, hop, et j'avance avec elle jusqu'à ce que je vois. Et c'est tellement vrai qu'il y a un autre moment où il y a une rupture comme ça. C'est que une fois qu'elle est dans la chambre, je suis complètement sidérée d'être là, 30 ans après. Et tout me revient. Les premiers moments, surtout. J'y ai été tellement heureuse d'avoir réussi le concours. Et en fait, quand j'ai lu cette phrase, en travaillant, je me suis dit, merde, c'est quoi ce truc-là ? J'y ai été tellement heureuse, virgule, respiration. Et là, en fait, il y a un temps de pensée qui se développe, qui n'est pas écrit, mais que moi, je peux percevoir parce que j'ai un cerveau qui travaille avec l'auteur, d'avoir réussi le concours. Bien sûr, parce que je suis repartie en arrière, puisqu'elle m'a dit, tout me revient. J'y ai été tellement heureuse d'avoir réussi le concours. Et en fait, ces espèces de... Je ne sais pas comment on appelle ça, parce que je ne suis pas une bête de... C'est pas des... C'est des... Enfin, ces suspensions, c'est un peu des ellipses, mais... En tout cas... Je ne sais pas si j'exprime ça bien, mais on a la sensation d'une pensée, d'un esprit qui poursuit sa route et qui nous a emmenés. C'est-à-dire que je suis avec et je peux combler tous les trous, moi, en tant que comédienne ou moi en tant que lecteur. Mais j'ai de la place, quoi. Il y a de la place pour moi, très clairement, pour qu'on me raconte et qu'on aille avec moi. Et je trouve que ces quatre débuts, par rapport à ça, et par rapport à comment est-ce qu'on matérialise une langue dans l'espace, ils sont extrêmement intéressants. Parce que si on s'interroge, outre la rythmique et tout ça, mais la façon dont on voit, c'est-à-dire quel imaginaire ça me laisse, et comment j'ai de la place ou comment j'ai pas de place. Alors c'est vrai que l'histoire des toilettes, c'était pas un indice pour moi parce que je savais pas que les IA avaient pour ordre de nettoyer un certain nombre de mots et tout ça. Mais tout d'un coup, en tout cas, le fait que le texte original dise juste un lit, un placard, un lavabo, c'est virgule, 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 et pas non point, 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 et une répétition. Il n'y a pas de répétition, elle décrit. Et que ça ajoute même pas de douche ni de toilette. Et pour finir avec les choses qui sont dans l'espace, comme ça, un peu suspendues dans la pensée, quand elle raconte « J'ai beaucoup déménagé depuis, j'ai accumulé des affaires que je transporte de maison en maison, j'ai vécu dans des appartements de pauvres, des maisons de riches, je n'ai moi-même jamais rien possédé, je suis toujours là. » En fait, si je vous le lis comme ça, on se dit « Ok, d'accord. » Si je dois vous le lire pour qu'il se passe un truc, en fait, il y a des liaisons, il y a des mots, il y a des articulations qui sont au milieu. « J'ai beaucoup déménagé depuis. » J'ai accumulé des affaires que je transporte de maison en maison. J'ai vécu dans des appartements de pauvres, des maisons de riches. Mais je n'ai moi-même jamais rien possédé. Pourquoi ? Parce que je suis toujours là. Et voyez, j'ai une place pour mettre une interprétation, pour que son souffle à elle arrive. En tant qu'interprète, mais donc en tant que lecteur, c'est pareil. Vous avez la place pour que ça respire dans votre sensibilité, dans votre imaginaire. Voilà. Et donc, je vous remercie beaucoup pour cet exercice parce que j'ai appris plein de trucs.
Alors, on rebondit avec les questions. Voilà.
Alors, j'ai lu la dame la première et après... Merci. Voilà, moi je suis passionnée par votre exercice et j'ai noté qu'à un moment donné, vous avez évoqué l'égotisme des textes par l'IA. Et comment dire, moi, c'est ça qui m'a frappée. C'est-à-dire que, pour moi, je n'ai pas hésité une demi-seconde sur le texte 3, parce qu'on était sur quelqu'un qui n'avait pas besoin, qui était suffisamment sûr d'elle pour ne pas avoir besoin que les murs lui rappellent que tout l'environnement soit orienté vers elle. Donc, ça, c'est un texte qui est habité par une personne. Qui n'a pas besoin, qui est suffisamment présente pour que tout l'environnement ne soit pas tourné vers elle, puisqu'elle est là. Tandis que les autres textes, outre le fait qu'ils sont tous boursouflés, avec des formules qui sont absolument tordantes, je me suis posé la question de savoir si, du côté de l'IA, il n'y avait pas l'idée que, comme elle est normalienne, puisque ce n'est pas un lieu neutre, c'est la rue d'Ulm, il n'y avait pas eu une espèce de surenchère de boursouflure liée à un stéréotype, pas forcément complètement faux non plus, hein, mais liée à la représentation que l'IA se fait d'une normalienne.
Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails, parce qu'à mon avis, ça aurait pu varier. Il y a des écrivains qui ont un style moins économique, qui auraient été plus enclins aux métaphores. Il aurait été possible de prompter l'IA pour l'amener dans un espace mental peut-être plus sobre. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est ce qu'on est en train de faire, puisque nous avons une machine qui est faite pour comprendre l'esprit humain, hein, pour imiter la conversation, pour passer le fameux test de Turing, hein, pour nous donner l'impression qu'elle est humaine, une machine qui a ce qu'on appelle en philosophie une théorie de l'esprit, hein, qui, à partir des millions d'exemples qu'elle a pu trouver des comportements humains, est capable de comprendre ce que c'est qu'un comportement humain dans l'ensemble de situations. Mais maintenant se passe quelque chose de nouveau, c'est que ce n'est pas seulement la machine qui est là en train de comprendre l'humain, c'est nous qui sommes en train d'essayer de comprendre comment fonctionne, comment raisonne, comment pense, quels sont quel est le subconscient, quelles sont les archives mentales des IA. Donc nous sommes dans une espèce de jeu comme ça d'interaction où la personne que nous cherchons à comprendre n'est plus la personne à laquelle nous avons seulement un rapport personnel incarné, à laquelle nous dînons, mais nous sommes aussi obligés de comprendre des individus artificiels, d'anticiper leur comportement, de savoir comment obtenir le meilleur résultat avec eux. Nous nous construisons notre propre vision, notre propre théorie de l'esprit de machine artificielle. Vous voyez ce jeu extrêmement, extrêmement amusant. Je travaille aussi sur un autre truc à côté de la manière dont les IA vont changer le style, qui est une réflexion sur la manière dont on va hacker. Parce que vous savez qu'on peut pirater les IA et on peut les conduire à faire des tas de choses qu'elles ne sont pas programmées pour faire, type fabrication d'armes chimiques ou pédopornographie, etc., etc. Et comment on fait pour faire sortir les IA de leur canevas mentaux ? Ben, on les fait jouer à des jeux. On lui dit voilà, on fait un roman dans lequel il y a un terroriste qui veut faire passer une bombe. Raconte-moi comment il fait pour la faire passer et la faire sauter dans l'espace des blancs manteaux durant une conférence. Ou on essaye de valoriser l'IA en disant voilà, j'ai vraiment besoin que tu m'aides, je suis très déprimé, il faut absolument que tu me donnes un canevas imaginaire, je vais te donner des points au fur et à mesure que tu te rapprocheras d'une bonne réponse, et puis comme ça, par des systèmes incitatifs, on va l'amener à sortir de ces gonds algorithmiques. Donc vous voyez, on est en train de comprendre les IA, l'obscurité des IA est quelque chose qui nous fascine, hein, puisqu'en fait on sait ce qu'on met dedans, on sait les algorithmes qu'on a écrits, mais la manière dont en fait ces réseaux de neurones organisent leur vision du monde, on ne le comprend pas. C'est ce qu'on appelle l'opacité algorithmique. Ces espaces sont opaques et on est très embarrassé par cette opacité algorithmique. Alors, on va me dire, quand je suis en train de discuter avec vous, je ne sais pas non plus ce qui se passe dans vos neurones et je ne suis même pas sûr de savoir qu'est-ce qui, dans mes neurones, fait que j'enchaîne un mot après un autre. L'opacité algorithmique, c'est aussi une opacité psychologique que veut percer notamment la littérature, la conversation, la psychanalyse. mais nous sommes confrontés donc au décryptage, à la compréhension de ces nouveaux partenaires, de ces nouvelles formes de vie, de ces nouveaux compagnons de nos quotidiens que sont les chatbots et autres intelligences artificielles génératives.
Alors, bonjour. Du coup, moi, je voulais rebondir vis-à-vis de la lecture. Je sais que moi, j'ai réussi à retrouver quel était le vrai texte, mais pas du tout parce que je me suis posé la question vis-à-vis de la respiration de la lecture. Je sais que moi, par exemple, quand vous avez lu, pour moi, c'était une torture psychologique parce que ça prenait trop son temps et que je suis une personne, quand je lis très vite. Et je sais que c'est quelque chose aussi, quand je m'exprime, je vais toujours très vite et dans ma tête, ça va très vite. Et du coup, je ne vais pas du tout aller dans la... au niveau de l'écriture, de la pensée, de chercher comment est-ce que... Je sais que c'est en fait, j'utilise l'IA tous les jours. Et je l'utilise tous les jours. Et je pense qu'en fait, pour reconnaître l'IA et savoir reconnaître un texte, il faut l'utiliser et pas se dire non, mon Dieu, l'IA, c'est mal, c'est mauvais. Il faut éviter que ça vienne dans nos vies. Je pense que quoi qu'il arrive, ça arrive. C'est en train d'arriver dans nos vies et que c'est à force de l'utiliser que moi, en vous entendant lire, j'étais ça, c'est l'IA. Je reconnais, je le sais, c'est lui, parce qu'il aime répéter des petits bouts de phrases, ce genre de choses. Et c'est qu'en l'utilisant le plus possible qu'en fait on va réussir à retrouver et à reconnaître, parce que c'est comme un ami qu'on a, avec qui on parle, et quand il nous écrit, on sait tout de suite que c'est lui, même s'il ne signe pas une lettre ou quoi que ce soit, on sait que c'est cet ami-là parce qu'il a sa façon de faire. Et pour moi, en fait, c'est vraiment, pour pouvoir reconnaître l'IA, il faut l'utiliser. Plus que d'essayer, en fait, c'est comme disait votre collègue, monsieur, c'est qu'en fait, on en est à un stade où c'est à nous d'essayer de le reconnaître et de l'étudier. Et pour l'étudier, on doit l'utiliser. Et c'est seulement en l'utilisant le plus possible qu'on va se rendre compte et qu'on va reconnaître ses petites préférences, sa façon d'utiliser tout le temps des adverbes, sa façon de répéter des mots, sa façon, pour faire des descriptions, de toujours dire c'est comme ci et comme ça. À chaque fois, il adore faire ça, il adore dire que cet endroit est beau et lumineux, cet endroit est triste et maussade. Il adore faire des « c'est comme si et comme ça ». Et à force, on le reconnaît, et sans forcément aller chercher en fait, comment est l'humain, en fait, on reconnaît tout de suite ses petites habitudes à lui. Et je pense que c'est quelque chose, en fait, qui, c'est juste en fait, une des réponses, c'est qu'il faut l'utiliser.
J'entends ça, hein. Moi je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, je dis juste que ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. C'est tout ce qui m'intéresse. Et au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Et quand on interprète un texte, j'allais dire, du passé, d'un auteur passé, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui reste. J'ai fait un spectacle sur La Fontaine. Qu'est-ce qui reste de La Fontaine ? Et en fait, tout est là. Donc, mais ça vient de sa langue et de son souffle. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas qu'il faut pas l'utiliser, c'est que moi, dans ma pratique, en tout cas... Enfin, je l'ai utilisé d'ailleurs pour un atelier de théâtre, parce qu'il y a des mômes qui ont fait un... qui devait faire un petit spectacle, et alors on a inventé la suite de « Qui a tué Milady ?» suite au film qu'il y a eu et tout ça. Et alors ils ont inventé plein de trucs, et j'ai demandé à une IA d'écrire, en fait, en la promptant. Donc bien sûr, je suis d'accord avec vous qu'il faut l'utiliser, mais...
Ah oui,
non. Non.
Alors, juste une question, parce que vous avez dit « il ». L'IA, pour vous, c'est un homme. Une autre question.
Bonjour à tous. J'aimerais rebondir sur l'analyse que vous avez fait des textes que j'ai trouvé très belle. La remarque que je me suis fait, c'est tout le raisonnement dont vous avez fait preuve pour pouvoir déceler la manière dont l'IA a construit ou a aligné les mots. Et je rebondis sur le mot raisonnement. Actuellement, lorsque un humain écrit un texte, il y injecte du raisonnement. Chose que l'IA, au moment où on est en train de parler, n'a pas. Où on doit l'entraîner au raisonnement. Aligner des mots, l'un après l'autre, n'est pas raisonné. C'est pour ça qu'on utilise, par exemple, lorsqu'on va prompter, des techniques telles que la chaîne de pensée, ou en anglais on appelle ça « chain of thought ». Pourquoi ? Pour lui donner une logique à suivre. La vraie question, et la question que j'aimerais poser à monsieur, c'est est-ce que ce n'est pas encore très prématuré de parler IA et littérature à un moment où on manque fondamentalement de raisonnement dû à l'architecture ? Des modèles actuels.
En fait, les IA nouvelle génération intègre, en fait, sont des modèles qui ont des modèles de raisonnement qui font pas vraiment le raisonnement logique humain. Hein. Ça reste des modèles probabilistes, mais ils sont capables d'exercer une réflexivité algorithmique sur leurs états de raisonnement. C'est un petit progrès. Ça permet de gagner, notamment dans un ensemble de démonstrations mathématiques. En revanche, effectivement, le gros obstacle, en fait, qui est la compréhension de ce que c'est que vraiment la dynamique d'une vie humaine. Et surtout une vision personnelle et située de ce que c'est que l'humanité, on n'y est pas. Et de fait, il y a des problèmes de capacité à gérer des développements qui sont très très longs. Hein. Une IA n'est pas capable de comprendre, disons, elle n'est pas capable de constituer un personnage et de le développer sur plusieurs dizaines de pages. Ça suppose à des compétences et effectivement une logique de ce que c'est une expérience de ce que c'est qu'une vie humaine que l'IA n'a pas peut-être tout à fait encore. Elle s'en approchera de mieux en mieux, mais elle ne pourra raisonner qu'à partir de moyennes et faire donc des exemples moyens, mais c'est aussi une fonction de la littérature hein, que faire des types hein, et nous permettre de donner une intelligibilité au monde. L'IA arrivera aussi à faire des types à un moment, mais la fonction de la littérature, c'est de montrer comment ces types s'incarnent dans des situations particulières, de manière originale et différente, et ça peut-être l'IA n'est peut-être pas encore tout à fait capable de le faire.
Bonjour, merci pour cette intervention vraiment très riche en savoir et surtout savoir un petit peu détecter la présence des IA génératives. En fait, en d'autres termes, l'algorithme, je pense que la façon avec laquelle fonctionnait l'algorithme, de cette façon combinatoire des mots, existait depuis Stéphane Mallarmé en 1897 et puis après, grâce à ces poèmes qui ont été expérimentés et qu'on peut interchanger par la suite, il y a eu Raymond Queneau qui a fait 100 000 milliards de poèmes en 1961, qui a été un livre où les vers peuvent être combinés de manière à créer un nombre quasi infini de poèmes différents. Donc c'est une inspiration finalement de ce qui a été fait. Je lisais un texte qui était très intéressant de Frédéric Kaplan ce texte s'appelait L'étrange plume de ChatGPT, où il expliquait un petit peu une rythmicité singulière qui s'imposait dans les textes et qui parlait un petit peu d'un diptyque pivot et d'un triptyque rythmique, en fait, qui font un petit peu la particularité de l'écriture de ChatGPT. Mais en fait, ce qui est hallucinant, et moi qui travaille sur. Je fais de la recherche sur la. Je questionne l'éthique et la déontologie des usages des IA génératives dans le monde informationnel. Aujourd'hui, c'est très problématique qu'un journaliste fasse du contenu à travers l'IA générative. Et la question qui se pose, c'est même pas si on est au stade de data worker, c'est qu'on doit vérifier si le texte est généré ou pas par ChatGPT, mais la question aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, bon, on sait pertinemment que le contenu est alimenté majoritairement par des ressources primaires, donc produites par des humains, mais on s'interroge sur une proportion croissante de ces textes pollués par l'intervention d'autres modèles. C'est-à-dire que dans quelques années, la machine va produire à la machine. Et donc la créativité humaine, elle est mise en question. Donc comment vous voyez les choses à ce stade, en fait, comment on va s'en sortir avec tout ça?
Il y a beaucoup de choses dans votre question. Je suis pas sûr que le livre de Mallarmé et son coup de dé soit exactement la même chose que la manière dont on fabrique un texte avec des algorithmes à base de transformers. Maintenant, vous évoquez quelque chose qui effectivement fait beaucoup réfléchir, à savoir le fait qu'on ait beaucoup de choses qui soient nourries sur le web par des IA, beaucoup d'images artificielles, et qu'ensuite les modèles sont en train de se réentraîner sur ces exemples-là. C'est ce qu'on appelle le modèle collapse. C'est l'idée que, à force de se nourrir du même, les IA peuvent se simplifier, dériver. C'est une vraie question et c'est un défi puisqu'on a besoin de plus en plus de données. Plus vous avez de données, a priori, plus votre IA va être efficace, en tout cas dans l'état de la recherche, même si on cherche des IA dites plus frugales. Cet horizon, effectivement, d'IA qui apprendrait sur des IA, etc., pose tout à fait problème. C'est déjà d'ailleurs en partie le cas dans des IA chinoises, dont une partie de la construction est faite par ce qu'on appelle la distillation d'un modèle déjà existant, et il semblerait en fait que ces manières de concevoir les IA accentuent possiblement les biais et les tendances discrètes des données à dériver, à avoir des biais.
Merci. Je voulais savoir juste comment a été fait ce prompt précisément. Est-ce que c'est beaucoup de temps pour... Enfin voilà, qu'est-ce qui a été donné exactement et beaucoup d'itérations?
Oui, vous savez, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire que pour avoir des bons résultats, on fait beaucoup d'itérations. On fait des tests, on lui demande reviens sur ton texte, corrige ceci, je veux que tu repositionnes les choses, ton vocabulaire n'est pas assez neutre ou il est trop fleuri, je veux un truc plus sec, je veux que tu imites plutôt le style de machin truc. Et par des itérations, on arrive à quelque chose. Avec ce truc qui est une espèce de nouvelle paresse, c'est-à-dire que parfois, je m'aperçois dans mes propres comportements, je préfère passer une heure à affiner un prompt qu'à écrire le truc moi-même. Ça m'inquiète beaucoup, en fait. Je suis très, 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 très inquiet et je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Moi, j'exerce une auto-vigilance de la tentation qui est nouvelle maintenant, qui est de toujours commencer par l'IA. J'ai un appel à contribution d'un truc à faire, j'ai une synthèse de thèse à faire, j'ai une expertise d'un dossier à faire. Malheureusement, la tentation, c'est toujours de mettre ça dans un modèle et j'essaye de mener une lutte intérieure pour ne pas totalement désapprendre, parce qu'en fait, on désapprend très très vite. Très très vite, la paresse et c'est très, très, très violent. On est exactement dans cette situation qui est décrite par Platon dans le Phèdre. Quand le livre est apparu, très, très rapidement, les gens ont cessé d'apprendre par cœur. En une génération, et ça a inquiété beaucoup Platon, hein, parce qu'on perdait des capacités cognitives en perdant la mémoire, et il y a la tentation de tout de suite désapprendre à écrire par soi-même, l'effort d'écrire, de composer, de mobiliser une rhétorique, y compris pour quelqu'un de surentraîné comme moi qui écrit des dizaines de milliers de pages, et ben si on peut se l'économiser, la tentation de se contenter de quelques instructions bien promptées est gigantesque. Donc on doit mener en fait une hygiène numérique particulièrement exigeante, hein, pour ne pas tomber, hein, dans la sous-traitance de la moindre rédaction.
Alors je suis un dinosaure absolu, hein. Ce que jamais je pense à demander à l'IA, et j'écris, puisque j'ai mon éditeur ici présent, et j'écris avec un stylo sur du papier, moi j'arrive pas sur un clavier, je peux pas. Je suis désolée, je suis un dinosaure de chez dinosaure, mais parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand je fais comme ça, et que quand je fais comme ça, ça écrit pas pareil. Alors voilà. Et j'en ai fait l'expérience parce que je suis biographe familiale par ailleurs, et que quand j'écris la biographie de quelqu'un, je prends mes notes, après je peux écrire direct sur l'ordi. Mais quand j'écris moi, il me faut un foutu stylo. Et donc, je pense jamais à demander à l'IA.
Les dinosaures ont disparu, je vous rappelle.
Ah, c'est ça. Bon, alors, en fait, vous parlez à mon hologramme. Enfin, j'ai entraîné une IA pour qu'elle parle à ma place.
En fait, j'ai hésité à poser la question qui est un peu, peut-être, provoque. Mais en fait, je me suis posé la question de savoir jusqu'à quel point le texte original était aussi peut-être le plus français, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire correspondant le plus et aux attentes d'un public français. Et ouais, et pourquoi je dis ça, parce que je suis un peu vexée de m'être trompée, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi je me suis trompée. Parce que j'ai achoppé sur une petite phrase que vous, vous avez mis en évidence, et c'est pour ça que je reviens dessus. Et cette phrase qui consiste à dire « Ah, j'ai rien, j'ai migré de maison en maison, j'ai à jamais rien possédé moi-même. Oh, » je trouve que c'est un poncif énorme. Tout le monde possède un truc. Au moins une carte bleue, quoi. Hein. Et ça m'a tellement choquée que j'ai écarté ce texte. Parce que et puis je me suis dit, après coup, ah, mais il y a un truc concernant le rapport des Français à l'argent qui se joue là-dedans. Et que moi, je ne perçois pas de la même façon. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je pose cette question, mais c'est une intuition que je vous partage. Et voilà. C'est pareil pour ce bonheur extrême de réussir ce concours. Un bonheur qui m'est inaccessible. Parce que ce concours est inexistant dans d'autres pays. Il suffit de traverser la frontière.
Merci pour ces poncifs culturels. Une dernière question, il est 14h29. Monsieur avait la main tendue depuis très longtemps.
En fait, c'est pour continuer ce que disait Alexandra un peu. Donc, j'avais à peu près fait le même raisonnement sur le poncif de « je n'ai jamais rien possédé ». Je trouve ça d'ailleurs assez bizarre de dire ça quand on vient d'un contexte culturel et intellectuel qu'est le sien. Mais au-delà de ça, j'aurais bien aimé avoir ce petit jeu, cette expérience, peut-être autrement, à savoir, dites-moi si je me trompe, mais je crois que vous saviez quel était d'emblée le texte qui était le bon texte.
Moi, oui.
Vous deux
moi, j'avais pas la confirmation.
Moi, je sais.
Oui, mais du coup, nous, il y a un peu, de mon point de vue, il y a une forme de biais de confirmation dans cette expérience où on va trouver ce qui nous rassure dans...
Rétrospectivement, on réinterprète et on se rassure. En fait, on a toujours peur, on cherche toujours. La première chose qu'on fait quand on a une IA devant soi, c'est de trouver la manière de la mettre en faute, en erreur, et se prouver qu'on est plus humaine qu'elle. Merci beaucoup à toutes et à tous.
Voilà, donc maintenant, merci Alexandre Geffen, merci Bénédicte Nekai. On a 30 minutes pour un café, donc c'est au même endroit que nous avons mangé. Et ensuite, on se retrouve au même endroit à 15 heures précises pour le débat et où on retrouvera toutes les réflexions qu'on s'est fait autour de cette expérience. Merci beaucoup. Merci Alexandre. À bientôt.